Maintenant, vers une autre invitée qui doit être au téléphone, hein, je pense. Il s'agit d'Isabelle Aymon, directrice de l'évaluation et du soutien à la mise en œuvre de la loi à l'Office des personnes handicapées du Québec, autrement dit l'OPHQ, que nous connaissons bien, bien sûr, ici à Canalem. Bonjour, Madame Aymon.
Oui, bonjour, madame. Vous allez bien?
Oui, je vais très, très bien et je suis très heureuse de vous parler ce matin. Alors, au sujet de cette politique à part entière, hein, alors, est-ce que ça a permis de réduire vraiment les obstacles pour les personnes en situation de handicap? C'est le sujet de notre entretien. Qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan aujourd'hui, madame Aymon?
Suite
au rapport d'évaluation, bien sûr, hein, qui est paru le 20 juin dernier.
Oui, on a fait paraître le 20 juin dernier quatre rapports d'évaluation.
En
fait, quatre rapports différents qui portent sur quatre grandes habitudes de vie des personnes handicapées qui correspondent en fait aux besoins essentiels des personnes handicapées, que sont les activités permettant de vivre à domicile, les communications, les déplacements et l'accessibilité des lieux, ainsi que l'habitation. Donc, on a vraiment un rôle d'évaluation, nous, à l'Office des personnes handicapées du Québec, et le Conseil des ministres a donné à l'Office le mandat de suivre et d'évaluer la politique à part entière. Donc, on fait des bilans annuels de mise en œuvre, mais le 20 juin dernier, on a sorti ces quatre grands rapports-là qui portaient vraiment sur les besoins essentiels. Donc, au niveau des activités permettant de vivre à domicile, ce qu'on peut retenir, c'est que la réduction des écarts entre les besoins des personnes et les services qui sont offerts demande à être accentuée. On a pu observer que, oui, il y a eu une avancée au niveau des investissements faits au Québec en soutien à domicile, mais on a pu observer que ces avancées-là étaient plus particulièrement pour les personnes âgées de 65 ans et plus, qui peuvent également être des personnes handicapées au sens de la loi, mais on retrouvait moins d'avancées au niveau du nombre d'heures de service, par contre, pour les personnes qui ont une déficience physique, intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme. Si je poursuis au niveau de l'habitation,
oui, c'est ça.
Ce qu'on a pu observer et ce qu'on relate dans notre rapport, c'est un manque de ressources résidentielles diversifiées. Le milieu associatif, notamment, nous en a fait part tout au long des travaux. Il y a un manque de logements autonomes avec soutien. Et il y a aussi des délais qui peuvent être importants. Et on sait que ça ne fait pas partie de notre rapport, mais on a des informations qui nous permettent de dire qu'il y a des différences des fois selon les régions. Pour avoir accès à une ressource résidentielle du réseau de la santé et des services sociaux. Et ça peut faire aussi en sorte que des personnes de moins de 65 ans se retrouvent en CHSLD alors qu'elles bénéficieraient peut-être davantage d'une ressource résidentielle mieux adaptée. Ça, c'est au niveau de l'habitation, ce que je viens de vous résumer. Au niveau des déplacements, des transports, on a pu observer, il y a quand même certaines avancées au niveau du transport en commun, de l'accessibilité des autobus, notamment dans les grandes sociétés de transport au Québec. Toutefois, ça, vous le savez, ça fait la manchette, le métro, il y a encore du chemin à faire, malgré que la STM s'est dotée d'un plan pour les prochaines années. Au niveau du transport adapté aussi, il y a de moins en moins de municipalités qui sont non desservies en transport adapté. Oui. Celles qui restent, ce sont des petites municipalités. Mais notre rapport fait état du besoin d'optimiser la gestion du transport adapté et augmenter son financement.
Oh oui, parce que regardez-moi qui lit les nouvelles tous les jours ici à Canalem, combien de fois on entend même des hérésies, je pense assez récemment, je pense qu'on avait demandé une gare, est-ce que c'était à Saint-Constant, je me souviens plus, mais finalement ça a été refusé, alors là il faut que les gens aillent très très loin pour parvenir à prendre un train, en tout cas tous ceux qui habitent sur la rive sud de Montréal, dans ces coins-là, là c'est... En tout cas, hein, il n'y en aura pas de facile, comme on dit, quoi.
Effectivement. si je poursuis dans les autres constats, si vous le voulez bien.
Mais oui, je vous en prie, par exemple, dans le domaine des communications, peut-être.
Dans le domaine des communications, on s'est beaucoup attardé dans notre rapport d'évaluation sur la mise en œuvre d'une politique gouvernementale qui existe depuis 2006, qui s'intitule, son nom c'est l'accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées. Ce qui est ressorti, oui, on voit qu'il y a une plus grande sensibilité des ministères et des organismes, mais on voit qu'il y a encore du travail à faire pour s'assurer de l'accessibilité des documents. Et je vous dirais que les ministères et organismes, dans le cadre de nos consultations, nous ont clairement dit on a du chemin à faire, mais on se doit d'être exemplaire. Donc, il y a du travail à faire au niveau de la mise en œuvre de cette politique-là, mais elle a fait son travail avec nos partenaires gouvernementaux pour de plus en plus la faire connaître, cette politique. Je pense qu'elle est de plus en plus connue également, mais on a encore du travail à faire de ce niveau-là.
Qui a participé à cette évaluation-là, Madame Aymon?
Oui, l'Office n'a pas travaillé seul pour réaliser ces travaux-là d'évaluation. On a mis sur pied un comité de suivi de la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique dès l'adoption de la politique en 2009.
Okay.
Donc, ce comité-là, il est composé, il est animé par le président de notre conseil d'administration, M. Martin Trépanier, et notre directrice générale, qui est Mme Anne Hébert. Et ce comité-là regroupe des ministères et organismes concernés, et ainsi que des représentants du milieu associatif des personnes handicapées. Et on a également M. Patrick Fougirolas, qui est un expert reconnu internationalement dans le domaine. Donc, ce comité-là nous a suivis depuis le début des travaux. Et avant la sortie des 4 rapports, je vous dirais qu'on a été pratiquement une année complète en consultation auprès des ministères, des organismes, auprès du milieu associatif, pour culminer à la sortie des rapports.
Bon, madame, il nous reste à peu près un petit 2 minutes. J'ai envie de vous demander, vous êtes optimiste pour quelles recommandations? D'après vous, quelles sont celles qui vont être priorisées?
C'est difficile à dire pour nous, à l'Office. Qu'est-ce qui est plus prioritaire entre l'habitation, les activités permettant de vivre à domicile? Parce que les 4 domaines que nous avons étudiés, c'est vraiment des habitudes de vie qui correspondent aux besoins essentiels des personnes handicapées. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que l'Office a reçu le mandat d'effectuer le suivi des 67 recommandations qui sont émises dans les rapports. Il y en a certaines qui ressortent, là, je vous en ai fait part brièvement, des sujets qui étaient peut-être un peu la situation est un peu plus difficile, mais je vous dirais qu'on a le mandat de suivre l'ensemble des recommandations, que les ministères concernés par les recommandations sont bien au fait.
D'accord. Écoutez, Madame Aymon, je vous remercie beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet et surtout sur ces rapports ce matin, en espérant que les choses maintenant s'organisent et que le gouvernement réponde et qu'il y ait vraiment des solutions qui soient apportées. Je voudrais dire aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent que s'ils veulent en savoir plus et se procurer les rapports, ils peuvent le faire en consultant le site de l'OPHQ, donc ophq.gouv.qc.ca, c'est bien ça alors?
Oui, exactement.
Puis comme ça, on en saura encore beaucoup plus. Madame Aymon, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions-là. Et puis, bonne fin de journée.
Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir.
Allez, au revoir.
Bonjour.